Les voix de service extra édition du 22 août 2017. Parlons tout de suite de culture et je vous le dis, il sera largement question de cinéma, mais surtout d'édition dans ce premier volet de l'émission. Je profite de l'occasion donc pour faire place à Marie-Lise Hamelin. Marie-Lise Hamelin qui plaide pour une révolution de la parentalité. C'est le titre du texte paru dans Le Devoir. Et je vous avertis tout de suite, si vous n'aimez pas les discours féministes, écoutez quand même. Voilà. Les femmes au foyer, les hommes au travail, une image du passé révolue, enterrée, faisant désormais place à un monde égalitaire entre les deux sexes, laissez-moi rire. S'il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que je ne verrai pas ça de mon vivant, écrit l'auteur et journaliste indépendante Marie-Lise Hamelin dans son essai « Maternité, la face cachée du sexisme » qui fera son entrée dans les librairies québécoises mercredi. Les femmes ont beau avoir investi massivement le marché du travail ces dernières décennies, aspirant à des carrières aussi prometteuses que leurs concurrents masculins, elles sont toujours victimes de discrimination de la part des employeurs. Salaire, promotion, employabilité, cheminement de carrière, les hommes récoltent la plus grosse part du gâteau, ne leur laissant que quelques miettes. S'appuyant sur des anecdotes vécues par son entourage, des entrevues avec des experts, des recherches approfondies sur la parentalité, donnant la parole à autant de femmes que d'hommes, Marie-Lise Hamelin dresse un sombre portrait de la situation au Québec à travers ses 180 pages. À l'approche du grand dévoilement, elle reconnaît avoir été découragée par ses recherches des deux dernières années. Mais la colère a désormais fait place à l'espoir de réveiller les lecteurs. En vieillissant, on sait que les choses sont difficiles à changer. Je sais que ça va être long, mais je ne demande qu'à être surprise. Le rapport mondial 2016 sur la parité entre hommes et femmes du Forum économique mondial estime même que la parité ne sera pas atteinte avant 2186, tout en rappelant qu'au Canada, les hommes gagnent 1,52 $ pour chaque dollar gagné par une Canadienne. Pour Marie-Lise Hamelin, cette réalité persistante trouve son origine dans la maternité. Les femmes représentent au sein du couple le parent par défaut. Ce sont elles qui prennent de longs congés parentaux partageables, aménageant leur horaire pour récupérer l'enfant après la garderie, quittant le travail soudainement lorsqu'il est malade, sans oublier qu'elles accomplissent encore aujourd'hui 70 % des tâches domestiques d'après le Conseil du statut de la femme. Et tant qu'il y aura un déséquilibre dans la parentalité, l'égalité des chances pour les femmes ne sera pas atteinte, croit l'auteur. Les employeurs présument qu'elles souhaiteront tôt ou tard fonder une famille et seront plus susceptibles de s'absenter, leur préférant alors un candidat masculin. Si d'emblée l'auteur se porte à la défense des femmes, c'est un plaidoyer pour une égalité dans la parentalité qu'elle propose. « Ce n'est pas un procès des hommes, assure-t-elle. Si ce livre-là a fait le procès de quelque chose, c'est du statu quo. Ça me fâche, cette idée d'une égalité déjà atteinte alors qu'on en est loin. Ça nous empêche d'avancer et peut occasionner des reculs si on reste assis sur nos lauriers. » Madame Hamelin fait remarquer dans son livre comment les inégalités entre les sexes en ce qui a trait aux responsabilités familiales découlent en fait d'une construction sociale. Ça se peut-tu que la petite fille ait vu sa mère prendre soin des enfants? Ça se peut-tu qu'on lui ait donné des poupées et pas à son frère? Ça se peut-tu que la documentation sur la parentalité s'adresse aux femmes? Certains stéréotypes demeurent, selon elle, comme l'idée que les femmes détiennent la science infuse sur la parentalité, que c'est inné pour elles de s'occuper des enfants en raison de leur instinct maternel. Pourtant, un homme peut tout aussi bien prendre soin des enfants qu'une femme. La seule différence biologique se situe au niveau de la grossesse et de l'allaitement, écrit-elle. ainsi valorisée, les femmes surinvestissent la maternité et s'enferment dans ce rôle de mère au foyer, abandonnant leurs aspirations professionnelles, pense Mme Hamelin. C'est d'ailleurs ce qui l'a fait renoncer à la maternité. Dès les premières pages, la journaliste explique qu'elle désirait réaliser tous ses projets, ses rêves, ses ambitions, sans risquer de devoir tout abandonner pour se mettre sur la voie de garage. Ce détail lui a déjà valu quelques commentaires sur les réseaux sociaux, certains estimant qu'elle parlait sans savoir. « Si j'avais des enfants, qu'est-ce qu'on dirait? Que je suis trop collée au sujet? Que je suis trop émotive? Que je prêche pour ma paroisse? Que je ne suis pas objective? » se défend-elle. À ses yeux, ses réactions prouvent à quel point le sujet est abordé de façon essentiellement intime et privée au Québec, au lieu d'être traité comme un enjeu social qui concerne l'ensemble de la société. Bien que critique sur le manque de volonté politique du gouvernement Couillard pour atteindre l'égalité entre les sexes, l'auteur reconnaît que le Québec n'est pas à plaindre et s'avère même en avance sur le reste du Canada. Le régime québécois d'assurance parentale, programme phare en matière de conciliation travail-famille, est aussi pris en exemple sur tout le continent nord-américain, considéré comme l'un des meilleurs au monde par le Center for American Progress. Instauré par le gouvernement Charest en 2006, le régime propose aux femmes un congé de 15 à 18 semaines, de 3 à 5 semaines aux hommes et de 25 à 32 semaines partageables entre eux. Selon le Conseil du statut de la femme, 80 % des pères québécois prennent leur congé paternité de 5 semaines, mais seulement un quart d'entre eux se prévalent d'une partie du congé partageable, le laissant plutôt à la mère. La politique est là, mais ce n'est pas passé dans la culture populaire. Je serais curieuse de voir le nombre de personnes qui savent que c'est partageable, confie l'auteur. Le Québec devrait plutôt s'inspirer des pays selon elle, tels l'Islande, qui offre 5 mois de congé à la mère, 5 autres au père et 2 mois partageables. Voilà une politique publique progressiste visant à favoriser l'égalité des femmes et des hommes en emploi. Pourquoi un employeur exercerait-il une discrimination contre les femmes à l'embauche puisque les hommes s'absenteront désormais pour une durée à peu près égale? Je ne prétends pas avoir toutes les solutions. Moi, je mène quelques pistes. Il faut en apporter d'autres. C'est un travail collectif. Avec cet essai, Marie-Lise Hamelin espère générer une conscientisation afin que les lecteurs réalisent qu'ils font perdurer ces stéréotypes qui desservent les femmes. Dans le monde de l'édition, la liberté de parole est évidemment sacrée. C'est encore plus vrai dans le monde universitaire. Or, la Cambridge University Press avait fait un pas en arrière en consentant des compromis avec la censure chinoise. Elle fait un nouveau pas en avant. La Cambridge University Press tient tête à la censure chinoise. La maison d'édition fait volte-face et remet en ligne les articles qu'elle avait retirés. C'est un article de France Presse, publié dans les pages de la presse. La prestigieuse maison d'édition de l'Université de Cambridge a annoncé lundi qu'elle allait remettre en ligne les articles qu'elle avait précédemment retirés à la demande de la censure chinoise, provoquant l'émoi dans la communauté scientifique. La Cambridge University Press a indiqué avoir décidé de restaurer l'accès au contenu bloqué avec effet immédiat afin de maintenir le principe de la liberté universitaire sur lequel repose le travail de l'université dans un communiqué sur Twitter. La maison d'édition, dont le premier ouvrage publié remonte à 1584, avait reconnu vendredi avoir bloqué à contre-cœur l'accès à 315 articles publiés en ligne en Chine sur le site Internet de China Quarterly, tout en se disant troublée par l'augmentation récente de demandes de cette nature. La liste des publications censurées incluait de nombreux articles sur le mouvement démocratique chinois et les manifestations de la place Tiananmen en 1989, ainsi que sur le Tibet. La maison d'édition avait justifié sa démarche par la nécessité de permettre que d'autres documents universitaires et pédagogiques que nous publions restent accessibles aux chercheurs et aux enseignants sur ce marché. Il devait s'agir d'une mesure temporaire dans l'attente d'une rencontre avec les autorités chinoises. La Cambridge University Press a finalement fait volte-face en republiant ses articles alors même que la réunion n'a pas encore eu lieu. Tim Pringle, directeur de la revue universitaire de China Quarterly, a exprimé sa satisfaction face à ce revirement, estimant que ce n'est pas le rôle de maisons d'édition réputées telles que les Cambridge University Press d'empêcher l'accès à la recherche universitaire. Il a estimé que cette décision faisait suite à la réaction très vive et justifiée de la communauté universitaire et au-delà, qui voyait une tentative de limiter la liberté universitaire et de réécrire l'histoire.
Malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main, tout ce qui monte redescend, celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Qu'à briller, mais plutôt tout geste de vérité. Mais nous donnerons nos armes en offrande à Notre-Dame pour ces quelques pécheurs sans âme en échange des ornements de nos larmes. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Aveuglé par l'alcool de sang troublé, par le frère de l'huître scellé, bien droit nous continuerons à marcher. Une fois deux par deux rassemblés, nous partirons le poing levé. Jamais la peur d'être blessé n'empêchera nos cœurs de crier. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver.
Pierre Lapointe, deux par deux rassemblés sur les ondes de Canal M.
Et on parle de cinéma maintenant, où, et d'Amélie Saint-Yves et de Maxime Demers qui signent des textes dans le Journal de Montréal, qui finalement mettent une espèce de dialectique entre Hollywood et le Québec. Vous allez voir, tout ça prend son sens. Un film hollywoodien est tourné en Mauricie. Et devinez où? Dans la patrie de Fred Pellerin, à Saint-Élie-de-Caxton, rien de moins. Une grosse production hollywoodienne passera les prochains mois dans deux petits villages de la Mauricie. Les résidents de Saint-Élie-de-Caxton et de Saint-Paulin, qui comptent tous deux moins de 2000 habitants, ont dû se pincer lorsqu'ils ont su que le réalisateur Doug Liman avait choisi ces deux villages pour tourner Chaos Walking, en fait, le chaos est en marche. Tom Holland, connu pour avoir joué Peter Parker dans Spider-Man, Les Retrouvailles et Daisy Ridley, qu'on a vu dans Star Wars, Le Réveil de la Force, seront les acteurs principaux du film. Plusieurs personnes espèrent les voir lors du tournage. On va sortir notre anglais, a déclaré Gilles Garceau du restaurant Quen Neuf de Saint-Élie-de-Caxton. Pendant les deux prochains mois, des dizaines de personnes seront logées dans des hôtels ou des auberges de la région en plus de manger dans les restaurants. Cela fait déjà deux mois que quelques dizaines de personnes sont sur place pour produire les décors dans une ancienne usine de Saint-Élie-de-Caxton, ce qui fait rouler l'économie de la place. Gilles Garceau reçoit presque tous les soirs 15 à 20 artisans du film, en plus de leur livrer de la pizza Saint-Paulin jeudi. La période de tournage n'était même pas commencée qu'il voyait déjà une différence dans son chiffre d'affaires. Nos soirs sont déjà plus achalandés. Les gens qui travaillent sur la construction des décors le soir, il faut qu'ils sortent. Alors ils viennent ici prendre une bière et manger. La beauté naturelle de Saint-Élie-de-Caxton a pesé dans la balance lorsqu'est venu le temps de choisir où tourner la production de Lionsgate Films, selon le maire régent Audette, particulièrement le lac Patterson qui accueillera quelques jours de tournage fin septembre. C'est un lieu où tout est vierge d'un côté. Il n'y a pas de poteau de téléphone, il n'y a rien. C'est un lac entouré d'une montagne qui, semble-t-il, répond exactement à leurs besoins. Et de l'autre côté du lac, il y a des bâtisses et de grands stationnements. C'est bon pour l'accessibilité, explique-t-il. Chaos Walking est une adaptation de la trilogie de l'auteur britannique Patrick Ness. Dans les livres, le héros, Todd, est un adolescent sur le point de devenir un homme dans un monde où les femmes ont disparu. Tous les hommes de ce monde sont par ailleurs télépathes, malgré eux, ce qui les plonge dans un bruit incessant. Il est difficile d'avoir davantage de précisions, notamment sur les effectifs de tournage, puisque des partenaires ont signé des ententes de confidentialité et que tout se déroule loin des regards. Le film doit prendre l'affiche à l'hiver 2019 et ma principale crainte, personnellement, c'est qu'après ce film-là, les histoires de Fred Pellerin puissent sembler un peu anodines. Puisqu'on parle de cinéma, eh bien c'est le temps des palmarès à la fin de l'été et on commence immédiatement avec une nouvelle qui est le cinéma québécois qui est au sommet cet été. Porté par l'immense succès des comédies policières de Père en flic 2 et Bon cop, bad cop 2, le cinéma québécois a connu un été de rêve au box-office. Avec des recettes de plus de 5,5 millions chacun, De Père en flic 2 et Bon cop, bad cop ont en effet réussi l'exploit de devancer des grosses pointures hollywoodiennes comme Wonder Woman, Spider-Man et Les Gardiens de la Galaxie au classement des films les plus populaires au box-office québécois cet été. Selon les statistiques de l'agence Cinéac, De Père en flic 2 figure même au second rang des films les plus lucratifs au box-office de la province en 2017, juste derrière La Belle et la Bête. Bon cop, bad cop 2 suit au troisième rang et devance notamment Les Gardiens de la Galaxie et Détestable Moi. Grâce aux performances de De Père en flic 2 et de Bon cop, bad cop, le cinéma québécois cumule à ce jour des recettes de plus de 11 millions au box-office de la province cet été. Et ce n'est pas terminé puisque les deux films sont encore à l'affiche dans plusieurs salles. La dernière fois que le cinéma québécois avait eu autant de succès au box-office, c'était à l'été 2009 avec la sortie du premier De Père en flic qui avait récolté 10,5 millions au guichet. Et puisqu'on en est à parler de palmarès, eh bien, les tops et les flops des productions hollywoodiennes de cet été. On commence par les plus payantes, Détestable Moi, qui a rassemblé 949 millions de dollars d'entrées à travers le monde. Les Gardiens de la Galaxie 2, 862 millions. Wonder Woman, 800 millions. Spider-Man, Les Retrouvailles, 725 millions. Dunkerque, 392 millions. La Momie, 405 millions. Emoji, le film, allons, on rentre dans les flops, 125 millions pour ce film qui a été démoli par la critique dès sa sortie. C'est, en fait, c'est un dessin animé où on voyait des emojis, des émoticônes finalement échangés. Alerte à Malibu parmi les flops. Ça m'a un peu surpris. Je me disais que c'est une valeur sûre, n'est-ce pas? Eh bien non, 176 millions à peine. Un film qui aurait porté 58 millions au box-office américain. Bref, c'est une grosse, grosse, grosse déception. Et pourtant, on pariait sur Dwayne The Rock pour le rendre populaire. Valérian et la cité des mille planètes. Ça me déçoit déjà plus. 115 millions à travers le monde, quoique ça a eu un très, très beau succès en France. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur, recette 146 millions à peine pour un film qui en a coûté 175. C'était pas donné, voilà. Donc, c'était les tops et les flops du cinéma d'Hollywood de cette année dans le monde. Allez, parlons baseball. Ça nous arrive pas fréquemment, mais parlons baseball. Et pas le baseball que Denis Coderre veut réimplanter à Montréal, celui de la Ligue nationale. Non, non, non. Le baseball junior amateur, où le Québec, une fois de plus, est champion pour la quatrième année consécutive. Le Québec, encore champion national au baseball junior. Robbie Saint-Gelais, Journal de Montréal. Le Québec est demeuré roi et maître incontesté au championnat canadien de baseball junior où les représentants de la belle province ont savouré de brillante manière la conquête de la médaille d'or pour une quatrième année consécutive dimanche à Gatineau. Non seulement l'effectif à la fleur de lys a complété le tournoi avec une fiche immaculée de 6 victoires en autant de rencontres, mais elle a été un véritable rouleau compresseur à chacune de ses sorties à l'exception du match ultime. Les Québécois ont conservé une couronne grâce à une victoire de 5-3 en finale sur Ontario 1, finissant la compétition avec 61 points marqués. Champions de la saison régulière dans la Ligue de baseball junior élite, les Diamants de Québec avaient le plus fort contingent de membres au sein de la formation provinciale et 12 des 18 joueurs médaillés provenaient de la région de Québec. Peu importe le sport que j'ai fait, j'ai rarement vu une équipe aussi dominante, a lancé l'entraîneur-chef Dominique Walsh, qui remplit les mêmes fonctions avec les Diamants. Nous avons connu un parcours incroyable. Remis de ses émotions malgré une nuit très courte, le pilote québécois a vanté la structure de développement du baseball d'élite pour expliquer les succès répétitifs sur la scène nationale de l'équipe du Québec. Le Québec a d'ailleurs maintenant remporté ses 21 dernières rencontres à ce tournoi. C'est clair que le calibre de notre ligue est très élevé, a souligné Walsh, épaulé par le gérant rival Jean-Nicolas Blanchet des Alouettes de Charlebourg pendant le tournoi. Je ne sais pas si les ligues juniors sont aussi organisées dans le reste du Canada que la nôtre et si leurs meilleurs joueurs y jouent ou s'ils s'en vont jouer dans les ligues d'été aux États-Unis. Puis nos joueurs s'en vont là en mission. Pour eux, c'est le summum de la saison. Il va falloir se rendre compte que le Québec est une puissance et que nos structures de développement avec les sports-études rapportent le baseball est un sport de développement tardif et on voit le résultat après 21 ans. Le joueur d'avant-championnat Jean-Philippe Chagnon des Alouettes a été élu meilleur frappeur, lui qui a conservé une impressionnante moyenne au bâton de 650 durant ses championnats canadiens. Si on avait donné le choix aux entraîneurs de la Ligue, je ne pense pas qu'il aurait été le premier choix. On l'a vu s'améliorer au fil des ans, a mentionné Walsh au sujet du cogneur. Football ou soccer, il va falloir qu'on se décide au Québec à appeler soccer football un jour pour des questions d'harmonisation. Les pièces se mettent en place, un texte de Dave Lévesque. L'Impact aura plusieurs mois pour prendre son air d'aller, mais tout semble enfin se mettre en place au bon moment. Le club de Mauro Biello vient de remporter 4 victoires consécutives au cours desquelles il a marqué 11 buts, n'en a accordé que 2 et a réalisé 2 jeux blancs. Cette poussée ponctuée de 3 victoires en 8 jours la semaine dernière permet aux bleus-blancs-noirs de franchir la ligne rouge pour la première fois de la saison et de rêver plus que jamais une place en série éliminatoire cet automne. En moins de 2 semaines, les bonnes performances de l'équipe lui ont permis de bondir de la 9e à la 6e place dans l'Est avec une récolte de 36 points, se retrouvant sur un pied d'égalité avec le Crew de Columbus qui est 5e. Le Crew a disputé 2 matchs de plus que l'Impact. Si l'Impact est parvenu à améliorer sa situation, c'est grâce au jeu inspiré d'Ignacio Piatti qui a marqué 6 buts et a ajouté une passe lors des 4 victoires. Blérim Djemali a lui aussi contribué avec 2 buts et 3 passes. mais c'est surtout le jeu collectif qui a conduit au succès de l'équipe avec une défense plus serrée et mieux coordonnée avec l'attaque. Cet effort collectif plus serré se reflète dans le jeu du gardien Evan Bush, qui n'a accordé que 2 buts en 4 rencontres, récoltant 2 jeux blancs au passage. Bush a souvent montré des signes d'hésitation au cours de la saison, mais depuis 4 rencontres, il affiche la confiance qu'on lui connaissait depuis quelques saisons. L'apport de Piet, l'arrivée de Samuel Piet, n'est certainement pas étrangère à ce revirement puisque le jeune milieu de terrain québécois sert de lien très efficace entre les 2 phases de jeu. Depuis son arrivée, l'Impact n'a accordé qu'un but en 3 rencontres, une statistique qui ne ment pas. Grâce à lui, la défense et l'attaque sont plus coordonnées. Le milieu de terrain de Repentigny récupère ou intercepte un grand nombre de ballons plus haut sur le terrain, ce qui permet des contre-attaques plus rapides. Ce n'est donc pas un hasard si l'Impact a marqué 3 buts à chacun de ses 3 derniers matchs. La victoire de 3-1 sur Salt Lake samedi porte également la marque d'Anthony Jackson-Hamel qui a inscrit 1 but et récolté 2 passes. À 24 ans, le Québécois est le second buteur de l'Impact ayant inscrit 7 buts en seulement 553 minutes pour une impressionnante moyenne d'un but toutes les 79 minutes. « Je suis très fier de Jackson parce que c'est un garçon qui a travaillé dans l'ombre », a souligné Assun Camara. « Ça a pris pas mal de temps et c'était difficile pour lui d'attendre. Aujourd'hui, il a la possibilité de montrer tout son talent et je suis content pour lui parce qu'il saisit l'opportunité à chaque instant. » Jackson martèle depuis le début de la saison qu'il désire être un titulaire et il se donne les moyens pour le devenir. Si on regarde mes autres départs, j'ai marqué contre Vancouver en championnat canadien et contre Columbus. Ce sont 3 buts en tant que titulaire. Ce n'est pas juste qu'en tant que remplaçant que je peux marquer. Je l'ai prouvé encore ce soir samedi. Jackson est en effet souvent perçu comme un substitut de luxe, mais ses statistiques militent en sa faveur et il le sait. Dans ma tête, je veux commencer tous les matchs, il n'y a aucun doute, c'est pour ça que je travaille. Je ne travaille pas pour être un remplaçant. Finalement, puisqu'il nous reste à peine quelques secondes, eh bien sachez qu'on connaît maintenant le tirage au sort des internationaux de tennis des États-Unis à Flushing Meadows. Et l'Ontarien Denis Shapovalov sera opposé à Denis Kudla en première ronde. C'est un 69e qui affronte un 173e. Ça augure bien. Le OG Aliassin devrait être de retour au jeu pour ce tournoi. Vous entendez l'indicatif qui nous signale que c'est déjà tout pour cette émission. Un grand merci à Jean-Sébastien de la Liberté qui a mis en onde l'émission, fait les choix musicaux, effacé quelques-unes de mes erreurs les plus flagrantes. Pour ma part, je cède l'antenne à Kevin Breton qui apportera enfin un peu de professionnalisme à ce micro. Merci, à demain.